Europe 1. Europe 1,
14h, 15h,
on de la traconte.
Cette affaire débute le 29 mars 1944 à Paris, autrement dit sous l'occupation allemande. Quand une femme élégante toque à la porte du commissariat du quartier Picpus. C'est à quel sujet, madame? C'est au sujet de ma fille. Elle a disparu. La dame est alors introduite dans le bureau du commissaire Delmas. Un petit bureau mal éclairé qui sent le tabac froid. Voilà, je m'appelle Suzanne Kergo et je m'inquiète, quoi, au sujet de ma fille, Jeannine. Nous sommes sans nouvelles depuis hier matin. Jeannine devait assister hier à l'inauguration du nouveau magasin de son frère et elle n'est pas venue. On a passé la nuit à se faire du mauvais sang. Monsieur le commissaire, avec le couvre-feu, on ne pouvait pas faire grand-chose. Ne vous inquiétez pas, madame, elle va revenir, croyez-moi. Le commissaire envoie tous les jours des jeunes gens qui disparaissent et puis qui réapparaissent. Les jeunes, même en temps de guerre, ça ne tient pas en place. Mais Madame Kergo fait non de la tête. Elle ne croit pas que sa fille va revenir. Monsieur le commissaire, je suis certaine qu'il lui est arrivé malheur. Mais qu'est-ce que vous dites? Qu'il lui est arrivé malheur? Monsieur le commissaire, ma fille est séparée de son mari, le marquis Alain de Bernardy de Sigoyer. Et hier matin, elle devait passer chez lui pour lui réclamer sa pension et elle a disparu juste après. C'est un homme dangereux, vous savez. Jeannine et le marquis sont en plein divorce. Oui, on divorce aussi pendant la guerre, enfin, à Paris. Et en attendant, ils vivent séparés. Jusque-là, je dois vous dire que le commissaire est à moitié convaincu. Mais il bascule quand Madame Kergo lui révèle deux petites choses sur son marquis de gendre. Et de un, il a été interné pour des troubles mentaux il y a une dizaine d'années. Et de deux, il a été condamné dans une affaire de séquestration. Et ça, ça commence à l'intéresser, le commissaire Delmas. Il envoie tout de suite deux hommes chez le marquis, au 7 boulevard de Bercy, à un hôtel particulier cossu. Et c'est une servante qui ouvre. « Bonsoir madame, nous sommes de la police. » Pourriez-vous dire à monsieur le marquis que nous sommes là? Ah, mais monsieur le marquis n'est pas là. Puis-je quelque chose pour vous? C'est au sujet de madame Jeannine de Bernardy, son épouse. Il semble qu'elle ait disparu depuis hier, et d'après ce que dit sa famille, elle est passée chez monsieur le marquis hier matin. L'avez-vous vue? Ah oui. Oui, je l'ai vue. Elle est arrivée vers 8h30. Avec monsieur, ils ont eu une discussion dans son bureau, et je dirais vers 9h10, il l'a raccompagnée sur le perron, et elle est partie. C'est tout ce que je peux vous dire. Et là-dessus débarque le marquis. Grand, élégant, de l'allure. Messieurs, que me vaut le plaisir de votre visite? Les policiers lui expliquent. Elle est effectivement passée, hier, vers 8h30. Elle est venue récupérer ses 30 000 francs de pension. Et puis, je l'ai raccompagnée sur le perron et elle est partie. Je crois me souvenir qu'une traction a démarré dans la seconde où elle est partie. Mais je ne peux pas vous dire si elle est montée dedans. Le lendemain, le marquis passe au commissariat pour sa déposition. Je ne suis pas très inquiet pour elle, vous savez. Elle ne manque pas d'amant pour l'amener loin d'ici. Et comme d'habitude, elle reviendra réclamer sa pension. Et là, le marquis abat une drôle de carte. Il dit au commissaire. J'ai des relations avec les Allemands. Si j'avais fait quoi que ce soit, si j'avais quoi que ce soit à me reprocher, vous ne pensez pas que j'aurais quitté le pays? Il m'aurait aidé, n'en doutez pas. Et là, il sort sa carte d'interprète auprès des Allemands. Manière de dire, fichez-moi la paix, j'ai des relations. Eh oui, c'est un collabo, le marquis. Comment croyez-vous qu'il paye son train de vie, ses gouvernantes, ses bonnes, la pension de sa femme et tout le reste? Avant la guerre, il était fauché. Et depuis le début de la guerre, il s'en est mis plein les poches. Il vend du vin au marché noir, avec la complicité des Allemands, gagnant sur les deux tableaux, les occupants et les occupés. Alors, est-ce que ça peut lui offrir une forme d'immunité? Eh bien, on va voir. Suzanne Kergo a déposé plainte pour séquestration arbitraire contre inconnu, avec constitution de partie civile. L'affaire quitte donc le commissariat de Picpus pour le 36 quai des Orfèvres. Et c'est une vedette de la police de l'époque qui prend le dossier, le commissaire Massu. L'homme aux 3257 arrestations. Efficace, le monsieur. Entre nous, à la fin de la guerre, il sera interné 8 mois pour collaboration, et puis finalement blanchi. Cette affaire, la disparition de Jeannine de Bernardi, c'est l'une de ses dernières grosses affaires. Les hommes de Massu vont d'abord voir au fichier ce que l'on dit du bonhomme, le marquis Alain de Bernardi de Sigoyer. Et ils ne sont pas déçus du voyage. Et la meilleure, c'est qu'il n'est pas du tout marquis. Pas plus marquis que vous et moi. C'est un orphelin qui vient de l'île de la Réunion. Il est en métropole depuis l'adolescence. Et c'est un escroc, vous n'avez pas idée. Depuis ses 16 ans, il accumule les condamnations pour escroquerie. C'est un spécialiste de ce qu'on appelle la carambouille. Il revend des biens achetés à crédit, mais il ne rembourse pas le crédit. Et il sévit dans toute l'Europe. Il est fiché comme escroc en Allemagne, en Autriche, en Roumanie, en Bulgarie, en Italie et en Espagne. Et il a fait pas mal de prisons. Mais pas que. Il a aussi passé 6 ans dans un asile de fous, dans le Bas-Rhin, jugé irresponsable dans une affaire d'escroquerie. Mais d'après ce qui est écrit dans le dossier, lui dit qu'il a simulé la folie. Et puis il y a cette fameuse histoire de séquestration dont a parlé sa belle-mère. C'est vrai. C'est dans son dossier. En 1938, il a séquestré un homme dans sa villa de la vallée de Chevreuse. Sans qu'on sache d'ailleurs vraiment pourquoi. Le type a réussi à s'enfuir et le marquis a été arrêté et renvoyé dans un asile de fous. Et dans son dossier, les flics du 36 découvrent aussi qu'il a été soupçonné d'un meurtre. Celui d'un certain Roger Richnowski. Mais il n'y avait pas de preuves, les poursuites ont été abandonnées. Voilà ce qu'on appelle un dossier bien chargé, très chargé. Vous imaginez bien que le commissaire Massu n'a qu'une hâte, c'est de l'avoir dans son bureau, en face de lui, ce marquis d'opérette. Et le voilà, le faux marquis, face au commissaire Massu. Au début, il part dans tous les sens. Il a des coupables à proposer. Un voisin, par exemple, de la rue Étienne Dolé, un certain Pierre Brissé. Jeannine est folle de lui. Et elle ne s'en cache pas. Je suis certain qu'ils couchent ensemble. Vous devriez le voir. Et 20 secondes après, il a une autre idée. Jeannine est certainement enceinte de son amant. Elle a dû s'enfuir pour se faire avorter. Et une poignée de secondes après, encore une autre. Voilà ce que je pense. J'ai mis ma société au nom de ma femme. Pour gérer mes affaires, c'est plus commode. Et j'ai les mains libres. Eh bien, je ne serais pas étonné que Jeannine ait mis en scène sa disparition pour me faire porter le chapeau. Expliquez. Je ne comprends pas. Eh oui, avec mon passé judiciaire, je fais un coupable idéal. Si je suis arrêté, pour moi, c'est direction l'asile. Et là, elle revient, elle prend la direction de mes affaires. Elle a tout gagné. Les gars du 36 vérifient, bien sûr. Brissé, le voisin, n'était absolument pas l'amant de madame. Délire. Cette histoire de grossesse et d'avortement à l'étranger. La mère dit que sa fille venait d'avoir ses règles. Ça aussi, c'est n'importe quoi. Quant au coup monté pour l'envoyer à l'asile et le dépouiller, on verra bien si elle rentre. Pour l'instant, lui, il est là, au 36 quai des Orfèvres, mal en point, et elle, elle n'est pas rentrée. D'où la confidence que lui fait le commissaire Massu. Vous savez ce que je pense? Monsieur le marquis, je pense que vous avez fait disparaître votre femme pour ne pas avoir à partager avec elle les biens de la communauté après le divorce. Voilà ce que je pense. Sauf que pour l'instant, le commissaire n'a pas de preuves. Les policiers de la crime vont en apprendre de bonnes sur le marquis. « Avant d'être le mari de Jeannine, il a été l'amant de sa mère, figurez-vous, Suzanne Kergo. Et finalement, il a préféré la fille de 18 ans. Et tant qu'on est dans les ragots, vous savez pourquoi elle a demandé le divorce, Jeannine ? Parce qu'elle a surpris son marquis de mari en train de batifoler avec la bonne, qu'il a mis enceinte, au passage. À part ça, quel étrange personnage. Il parle 6 langues, figurez-vous. À une époque, il a créé des écoles de langue dans toute l'Europe. Il a aussi créé des écoles de magie en Espagne. Et pour boucler le tableau, il pratique aussi la magie noire. C'est ce qu'on appelle une vie romanesque. C'est un fantasque, c'est un excentrique. Et pour l'instant, parmi les policiers du 36, c'est partagé. Il y en a qui sont certains qu'il a tué sa femme, mais le commissaire Massu, par exemple, n'y croit pas. Du coup, l'enquête s'enlise un peu. Et le marquis, lui, continue ses petites affaires. Et excédée, Suzanne Kergo, la belle-mère, finit par aller frapper à la porte de la Gestapo française. On lui désigne un interlocuteur, un certain Mazui, un grand brun avec une tête de vautour et une réputation de barbare, expert dans l'art de torturer. En pleine nuit, il va cueillir le marquis chez lui et le ramène à l'arrière de sa traction jusqu'au bureau de la Gestapo au 101 avenue Henri Martin. Au début, le marquis lui sert ses délires, ce qu'il a raconté aux policiers. Alors Mazui le regarde avec un petit sourire sadique et il lui dit « Tu vas passer à la baignoire. » Il ordonne à ses hommes de le traîner jusqu'à la salle de bain. Il remplit la baignoire d'eau glacée. Il lui plonge la tête dedans, longtemps, et il la ressort in extremis et la plonge à nouveau. Et le marquis suffoque et il est au bord de l'asphyxie. Et Massuy lui demande « Elle est où, ta femme ?» Mais le marquis ne lâche rien, rien. Il se tait, il encaisse. Et Mazui pense que sa méthode est infaillible. Il en conclut qu'il est innocent. Et puis les semaines passent. Et c'est la libération de Paris. Depuis leur fenêtre du 36 quai des Orfèvres sur l'île de la Cité, les flics du 36 sont aux premières loges pour assister à la fête, pour assister à la liesse populaire. Et dans la foule, ils entendent une petite voix, une voix chantante qu'ils connaissent bien. C'est le marquis qui apostrophe quelqu'un et qui lui dit « J'appartiens au comité de libération. Je suis venu féliciter l'armée de Leclerc. Je suis le responsable du comité de libération du 12e arrondissement. » Incroyable ! Le collabo est en train de se faire passer pour un résistant. Il est gonflé ! Les flics descendent les escaliers du 36 4 à 4 et ils l'arrêtent et ils l'emmènent au vélodrome d'hiver où sont conduits tous ceux que l'on soupçonne d'intelligence avec l'ennemi. Les collabos, quoi. Il en arrive par fourgon entier, sous une pluie de crachats et de menaces de mort. Et ensuite, comme les autres, il est transféré à la prison de Fresnes dans l'attente de son procès pour intelligence avec l'ennemi. Et là, il prépare une de ses fourberies dont il a le secret. Le marquis est à Fresnes dans l'attente de son procès. Mais il ne perd pas le nord, il se préoccupe de ses affaires. Et comme lui, là où il est, il ne peut pas faire grand-chose, il se dit que peut-être Irène, la bonne, qui était aussi sa maîtresse, peut prendre le relais. Alors il soudoie un gardien et lui fait parvenir des lettres. Au début, Irène accepte. Et puis elle s'amourache de Marcel, un jeune sergent qui rentre de la guerre avec un œil en moins. Et au bout d'un moment, elle envoie bouler le marquis. Elle en a par-dessus la tête de ses histoires. Mais lui, dans sa cellule, il enrage. Il l'assomme de lettres. « Vous n'êtes pas sérieuse, Irène. Vous, avec un borgne, avez-vous perdu toute ambition dans la vie ?» mais la bonne s'en fiche. Alors le marquis abat sa dernière carte. Son codétenu, un certain Charles Franco, est sur le point de sortir. Alors il le charge d'une mission assez mystérieuse. « Quand tu sors, tu vas chez moi. Tu fais venir Irène dans mon bureau, tu la regardes fixement, durement, hein, n'hésite pas. Et tu lui dis de s'asseoir dans le fauteuil rouge. Et tu ajoutes, tu n'oublies pas, hein, je te marque ça sur une feuille, que ça lui rappelle sûrement quelque chose. Tu verras, elle comprendra. Et après tu insistes pour qu'elle quitte ce Marcel, d'accord ?» Franco fait ce que le marquis lui a dit. Et Irène, miracle, se sépare de son Marcel. Mais avec quel secret l'a-t-il fait chanter ? Pas le temps de se poser la question, car maintenant, les libations de la libération sont terminées et l'enquête sur la disparition de Jeannine reprend du poil de la bête. Avec un nouveau juge, un petit jeune qui arrive en avril 1945 et qui envoie deux policiers à l'hôtel particulier du marquis pour tenter de flairer une nouvelle piste. Et ces deux policiers tombent sur le beau-frère de la bonne, qui s'est installé dans les lieux avec femme et enfant. Et le beau-frère leur raconte une drôle d'histoire. C'était en février dernier. Le marquis a demandé à Irène de mettre en lieu sûr un petit tonneau avec des papiers dedans, c'est ce qu'il disait. Mais c'était pas des papiers, hein. C'était des affaires de femmes. Il y avait un manteau de fourrure, je m'en souviens, un sac à main. Des affaires de femmes ? Les deux policiers jubilent. Et ils se lancent dans une fouille de l'hôtel particulier. Et il trouve le tonneau, et il l'ouvre. Et dedans, il y a un sac à main en crocodile marron, un porte-monnaie, un portefeuille en cuir rouge, vide, un poudrier et un manteau de fourrure rousse avec dans les poches des boucles d'oreilles. Et dans un tiroir, il tombe sur les lettres que le marquis a envoyées à Irène depuis sa prison. L'après-midi même, il montre les affaires aux frères de Jeannine. Et il les reconnaît. Ce sont les vêtements qu'elle portait le jour de sa disparition, en mars 1944. Alors maintenant, maintenant il faut retrouver la bonne, Irène. Elle doit savoir beaucoup de choses. Les policiers l'accueillent chez sa tante à Pigalle et ils la conduisent tout droit dans le bureau du commissaire Massu, qui lui met sous le nez les affaires retrouvées dans le tonneau. Et là, Irène se met à sangloter.
« Je vais vous dire ce qui s'est passé. Le 28 mars 44, c'était vers les 9h moins le quart. J'étais dans la cuisine et le marquis m'a appelé. Je suis arrivé dans son bureau et Jeannine de Bernardy était là, assise dans le fauteuil rouge. Et il lui disait « Tu vas me dire si Brice est ton amant ?» Et elle riait. Et du coup, il l'a étranglée. J'ai voulu l'en empêcher, mais il m'a repoussé. Et ensuite, il m'a demandé de l'aider à transporter le corps. On l'a mis dans la pétrolette. On est allé jusqu'à ses entrepôts. Il l'a enterré dans une fosse, sous le compteur à eau.
Les enquêteurs vont immédiatement aux entrepôts du marquis, avec deux terrassiers, et ils creusent un long moment, et ils tombent sur un doigt, une touffe de cheveux, une tête, puis un corps, en état de décomposition avancée. La jupe que porte le cadavre est brodée de trois initiales, J.B.S. Jeannine de Bernardy de Sigoyer. Il l'a donc assassinée. Il est donc temps de réinterroger le marquis. Et il n'est pas difficile à trouver puisqu'il est au frais à la prison de Fresnes. Mais il est malade comme un chien. En vérité, il s'est rendu malade. Il s'est injecté une mixture à base de lait et de piment. Il espérait sans doute apitoyer ses juges et gagner sa liberté. C'est raté. Bref, le commissaire Massu lui met sous le nez les affaires retrouvées dans le tonneau. et il se met à faire son cirque habituel.
« Mon Dieu ! Je fais enfin savoir ce qu'est devenue ma pauvre femme !»«
On l'a retrouvée, votre femme. Enfin, on a retrouvé des restes, enterrés dans vos entrepôts. »
« Ah, mais je n'ai jamais su la présence d'un cadavre dans mes entrepôts. Et qui vous dit qu'il s'agit de ma femme ?»
Le commissaire fait alors entrer Irène, la bonne, qui attendait dans la pièce d'à côté. Et Irène, elle ne se démonte pas. Elle raconte à nouveau l'assassinat de Jeannine. Et lui, en face, éructe.
« C'est un coup monté, je vous dis. Un coup monté, vous comprenez ?»
Donc, pas d'aveu. Mais maintenant, il y a des preuves. Reste le mobile. Pourquoi aurait-il étranglé sa femme ? Eh bien, pour l'argent, bien sûr. Il aime l'argent, le marquis. Il voulait simplement faire l'économie de la pension. C'est ça, le mobile le plus probable. Eh bien, l'enquête est bouclée. Un corps, un mobile, le témoignage de la bonne. Qu'importe qu'il nie, sauf s'il est fou. N'oubliez pas qu'il a passé une bonne partie de sa vie dans des asiles d'aliénés. Alors, est-il fou ? Alors on demande à des experts psychiatres de se pencher sur la personnalité d'Alain de Bernardy de Sigoyer. Ils notent que c'est un homme réfléchi, qui gère ses affaires avec intelligence. Quand on lui demande de parler de sa vie, de sa jeunesse notamment, c'est cohérent, ça sonne juste. Alors oui, c'est un déséquilibré mental, c'est un pervers, c'est un manipulateur, mais il n'est pas fou. Il est donc apte à être jugé. Et ça, figurez-vous que ça lui plaît bien, au marquis. Il ne veut plus qu'on le prenne pour un cinglé, il ne veut plus retourner en asile, il sera donc jugé. Son procès s'ouvre le 19 décembre 1946 devant la cour d'assises de la Seine. Et Yafoul, ce faux marquis, séducteur, aventurier qui aurait tué sa femme, excite les esprits. Pour sa défense, de Bernardy de Sigoyer a embauché Maître Isorni, une star du barreau. Et en face, Suzanne Kergaud, la belle-mère, a enrôlé Maître Garçon, un jeune avocat redoutable. Les pièces à conviction sont étalées sur une table au milieu de la salle d'assises. Le manteau de renard, le sac à main en croco, un bocal de formol qui contient un organe de la victime et le fameux fauteuil rouge sur lequel le marquis aurait étranglé sa victime. Et on fait entrer l'accusé, très élégant, dans un long manteau beige. Il s'est laissé pousser une moustache et une petite barbichette. Et quand il parle, il est théâtral. Il fait de grands gestes, il prend tantôt l'accent alsacien, tantôt l'accent créole, il est plus excentrique que jamais. Du coup, on en revient à la question. Est-ce qu'il est fou ? On fait venir les experts, et l'un d'entre eux dit « Alain de Bernardy de Sigoyer a perdu son âme, mais certainement pas la raison !» Au troisième jour du procès, coup de théâtre. Le marquis se lève, il a des choses à révéler. Je vais vous dire la vérité. C'est Irène qui a tué ma femme. Avec un revolver, un 6.35. Le matin du 28, nous étions réconciliés avec ma femme. Nous étions sur le lit et Irène est arrivée dans la chambre. Elles se sont disputées, la jalousie, que voulez-vous. Et Irène a pris un revolver dans un tiroir et elle a tiré sur Jeannine, en plein poumon. Le président lui demande pourquoi il ne l'a pas dit plus tôt. Vous savez, dans ces cas-là, on est saisi de panique, on devient bête. J'ai eu peur d'être accusé, alors j'ai préféré enterrer le corps. Le président fait exhumer le cadavre de la pauvre Jeannine. Et on ne trouve pas de balle de calibre 6.35. Maître Isorni fait une belle plaidoirie, mais le verdict tombe et Alain de Bernardy de Sigoyer est condamné à la peine capitale. Il aura la tête tranchée dans la cour de la prison de la Santé. Le marquis, bien sûr, demande la grâce au président Vincent Auriol, qui la décline. Et le 11 juin 1947, à 4h15 du matin, les gardiens viennent réveiller le condamné.
Monsieur le marquis, la grâce vous a été refusée. Armez-vous de courage, monsieur le marquis.
Il range quelques papiers, il retire son alliance et l'embrasse. Ensuite, il communie. Il prend un verre de rhum, puis une cigarette. Et une dernière fois, il dit qu'il est innocent.
C'est une monstrueuse erreur judiciaire qui se prépare. On peut encore tout sauver.
On l'installe sur l'échafaud. La planche bascule. Le couperet tombe. C'est fini. Mais le soir même, Maître Isorni entend frapper à sa porte. Un homme lui tend une lettre. C'est une ultime lettre du marquis, dans laquelle il maudit son avocat et lui prédit les pires malheurs pour ne pas avoir été capable de lui épargner la guillotine. Dernière excentricité. Si cette histoire, dans ce contexte si particulier de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vous a intéressé, lisez donc le livre dont je me suis inspiré, « L'assassin qui aimait les femmes », de René Vigo.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.